France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux.
À 9h moins le quart sur France Inter, la revue de presse avec vous. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Éric, bonjour Patricia. Bonjour. Et bonjour à tous. On ne connaît jamais réellement les gens. Ceux qui nous entourent, ceux que l'on croise. Parfois on catalogue, on les met dans des cases et parfois on s'inquiète de ne pas en savoir davantage. Une copine rencontre un jeune homme dans un bar. On lui dit « Attention, tu ne sais pas grand-chose de lui. » Un nouveau patron débarque dans l'entreprise. « T'en penses quoi ?»« Bah, j'ai les boules, il a mauvaise réputation. Il paraît que c'est un tueur, j'en dors pas depuis 10 jours. » Non, on ne connaît jamais réellement les gens et il peut arriver qu'on ne sache rien du tout d'eux et que même d'ailleurs n'en sache finalement pas davantage. C'est l'histoire que raconte l'Express cette semaine. Mais qui est donc Monsieur 13 août?
Un homme dont personne ne connaît l'identité.
Personne, ni lui-même, car il est amnésique. Ce n'est pas la première fois qu'on lit ce genre d'histoire, mais celle-ci est exceptionnelle par sa durée. Cela fait maintenant 18 mois que les pompiers ont retrouvé cet homme dans une rue de Marseille. C'était le 13 août 2017. Il faisait une crise de nerfs à un arrêt de bus. Aucun papier sur lui, pas d'effet personnel. Et il est incapable de prononcer le moindre mot. On l'a alors conduit à l'hôpital psychiatrique. Et depuis, malgré un appel à témoins, personne n'est en mesure de dire de qui il s'agit. Personne ne le réclame. Et il ne figure sur aucun fichier de la police. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est âgé d'environ 37 ans. Conclusion d'une radiographie osseuse, 37 ans, mais il a des comportements d'enfant. Il rit quand on imite le miaulement d'un chat. On peut dire aussi qu'il a le type asiatique. Il pourrait être originaire du Laos ou du Vietnam. Une hypothèse a émergé, celle d'un enfant qui aurait été adopté au début des années 80, puis qui aurait grandi en France et se serait retrouvé tout seul suite à la mort de son dernier parent adoptif. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse. Cet homme reste une énigme. Et après 18 mois d'enquête, on continue donc de l'appeler Monsieur 13 août.
Et dans le journal L'Équipe, c'est un autre homme que l'on découvre.
Un footballeur de 27 ans. 1m78 pour 83 kilos. Il est milieu de terrain dans l'équipe d'Amiens. Aujourd'hui 17e au classement de la Ligue 1. Lui, on connaît son nom. Il s'appelle Thomas Monconduit. Et l'interview qu'il donne au quotidien sportif ne manque pas d'intérêt. Tant elle va à l'encontre de tous les stéréotypes. Souvent, on entend dire que les footballeurs sont de grands décérébrés, qui ne jurent que par le fric et les berlines de luxe. Des sportifs surpayés qui vivent dans un monde parallèle. Or là, les clichés tombent à chaque phrase prononcée par le joueur amiénois. Non, dit-il, je ne pense pas être coupé du monde. Je vis dans un appartement situé au centre-ville. Je fais mes courses au Biocop et je roule en Peugeot 106. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter une grosse voiture alors que j'habite à 800 mètres du centre d'entraînement. On l'interroge sur son obsession de vivre comme Monsieur Tout le Monde. Ça vient de ma grand-mère, dit-il. Elle compte beaucoup pour moi. Sa grand-mère, c'est Muguet Jacquin, ancienne députée du Parti communiste, qui a toujours vécu dans une cité de la Courneuve. Avec elle, se souvient-il, je suis souvent parti en vacances dans des maisons de campagne un peu miteuses, mais on ne manquait de rien. Elle m'a prouvé qu'on pouvait bien gagner sa vie tout en restant dans la vraie vie. Thomas Monconduit dit aussi son refus de rejoindre un plus grand club. Aucune envie d'être trop médiatisé. Il tient à sa tranquillité. Il évoque son soutien à la campagne de François Ruffin il y a 2 ans. Un des seuls députés qui donne vraiment l'impression de représenter le peuple, estime-t-il. Il explique également qu'à ses yeux, l'urgence de l'époque, c'est l'écologie. Mais il trouve légitime le combat des gilets jaunes. Je les soutiens, dit-il. Ne jamais cataloguer les gens. On ne les connaît jamais réellement.
D'ailleurs, les gilets jaunes, on en parle dans toute la presse.
L'acte 11, ce samedi, avec ça et là des rassemblements nocturnes. La Provence revient sur la condamnation d'un manifestant. 2 ans de prison ferme. Il avait été interpellé au péage de La Ciotat et sur lui, il portait une arme à feu chargée. De son côté, la Dépêche du Midi nous explique comment les casseurs s'infiltrent dans les manifestations. Quant aux Parisiens, il nous apprend que certaines mutuelles refusent de prendre en charge les plus graves des blessures. C'est l'histoire de Gabriel, jeune apprenti charbonnier de 21 ans, qui le 24 novembre, en marge de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, a eu la main arrachée par une grenade Gli F4. Après une grève de peau et 12 opérations, pour lui, la double peine, il a appris que sa complémentaire santé, Harmonie Mutuelle, ne lui rembourserait pas ses frais médicaux. Raison invoquée, ces blessures se sont produites pendant des émeutes ou un mouvement social. Alors pour limiter les frais, Gabriel a choisi de rentrer chez ses parents entre chaque intervention au lieu de rester à l'hôpital. Ces grenades, elles sont par ailleurs mises en accusation dans Libération ce matin, qui les présente comme des armes de mutilation massive, des grenades essentiellement composées de TNT qui ont fait beaucoup de dégâts lors des rassemblements. Or, Libération nous apprend, après avoir pu consulter un rapport de la gendarmerie, que la dangerosité de ces grenades est désormais connue après avoir été longtemps sous-estimée. Le ministère de l'Intérieur n'en commande plus aujourd'hui. aujourd'hui, ce qui n'empêche pourtant pas les forces de l'ordre de continuer à s'en servir jusqu'à épuisement du stock. Les journaux reviennent par ailleurs sur le grand débat national. Et puis sur l'émission que la secrétaire d'État Marlène Schiappa a faite hier soir avec Cyril Hanouna, le récit le plus complet et le plus savoureux est à lire sur le site Les Jours. C'est même par moments assez drôle, nettement plus drôle que la nouvelle que nous avons apprise il y a quelques minutes, la mort du grand musicien Michel Legrand.
Et pour finir, vous nous parlez d'une femme, d'une jeune femme.
Quelle jeune femme ?
Jeune femme dont Télérama nous dresse le portrait à sa rubrique tête d'affiche. Portrait d'Anna Sigalevitch en face de moi dans ce studio. 35
elle
ans, journaliste, mais pas uniquement journaliste. Née dans une famille de musiciens russes, Anna pratique aussi le piano, compose et joue la comédie. Éclectique, dit l'article, elle interprète du Schubert devant la caméra de Michael Haneke. Et elle est la nouvelle voix française de... Lara Croft, Anna et Lara Croft, pour moi c'est une grande découverte, décidément on ne connaît jamais réellement les gens.